de la Bible. Second livre des rois, je vous invite à lire au chapitre 2. Second livre des rois, chapitre 2, à partir du verset 18. Second livre des rois, chapitre 2, verset 18. Nous lisons, lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est beau, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voilà, ce texte nous ramène il y a bien des siècles en arrière, sur la terre d'Israël, à l'époque où un homme nommé Élisée, c'était un prophète, il exerçait sa vocation de prophète, effectivement, nous en avons parlé pour ceux qui étaient là vendredi, cette période de la Bible correspond à tout un temps où Dieu, dans sa souveraineté, son amour aussi pour les hommes, a confié à des hommes qu'il avait choisi la vocation d'être en quelque sorte ses porte-parole auprès du peuple et de faire connaître sa pensée, son conseil, dispensant ainsi des encouragements, parfois des avertissements, en tout cas de bons conseils de la part de Dieu. Et pour prouver en quelque sorte à ceux qui écoutaient ces prophètes que c'était bien Dieu qui parlait à travers eux, Dieu sait que le cœur de l'homme est parfois lent à croire ce qu'il dit. Pour authentifier en quelque sorte ce message, eh bien, Dieu accomplissait, c'est arrivé en tout cas à plusieurs reprises, par les mains, par la vie de ses prophètes, des prodiges, des miracles, des signes surnaturels, comme c'est le cas ici où on se trouve dans la ville de Jéricho, ville qui était alors frappée par une plaie mystérieuse, rien n'y poussait, parce que les eaux qui coulaient dans la ville apportaient la mort, elles avaient en elles quelque chose de mauvais qui faisait en sorte qu'on ne pouvait rien cultiver, rien faire pousser à Jéricho, et on a fait connaître la situation au prophète Élisée, et Élisée, inspiré par Dieu en quelque sorte, a demandé à ce qu'on lui apporte un plat neuf, du sel, il est allé jusqu'aux sources des eaux de la ville, et selon la parole que Dieu lui a donnée, bien, les eaux ont été assainies. Et à partir de ce jour-là, à nouveau, on a pu recommencer à semer, à arroser, à planter et à voir les semences porter du fruit, ce qui apportait la mort, eh bien, a laissé place à la vie. Finalement, à travers cet incident très court que nous relate l'Écriture, puisque ça tient en quelques versets, Dieu nous parle non seulement de ce qu'il a fait il y a des siècles par les mains du prophète Élisée, mais on va le comprendre en réfléchissant sur ce texte, de ce qu'il veut faire pour nous, de ce qu'il veut faire aujourd'hui dans notre vie, parce que si le prophète Élisée est mort, si les temps d'Israël sont révolus, en tout cas Israël tel qu'il existait à cette époque-là, bien Dieu, lui, demeure, et il demeure le même éternellement. Alors, voilà, Jéricho, rien que le nom de cette ville nous invite à réfléchir, et il y a là tout un symbole, finalement, de notre monde, que Dieu voit et qu'il voudrait bénir. Alors pourquoi? Parce que Jéricho, on le voit, c'était une ville qui était bien placée et qui, à l'origine, jouissait d'une bonne réputation parce que c'était comme un oasis. Il y poussait des palmiers, c'était la ville des palmiers, il y faisait bon vivre. Et voilà, ça a été comme ça pendant tout un temps. Et puis, cette ville où il fait bon vivre, eh bien, il y a eu un problème, puisque nous entendons le témoignage qui est rendu ici à Élisée, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Donc il y avait quelque chose d'excellent au départ, et au moment où nous découvrons la ville de Jéricho, à travers ces pages de l'Écriture, eh bien, ce qui était excellent a laissé place à la mort et à la désolation. Plus, les lecteurs assidus de la Bible se souviendront sans doute que cette ville de Jéricho est une ville qui, de manière particulièrement opiniâtre, est donnée en exemple comme une ville qui a résisté à Dieu, une ville qui a opposé sa volonté à celle de Dieu, au point que, lorsque finalement ces murailles se sont écroulées, Dieu a dû user envers Jéricho d'une grande sévérité, bien une parole a été prononcée sur cette ville, et cette parole, c'est terrible, ça a été une parole de malédiction. Ça a été une parole de malédiction. Maudit soit l'homme qui rebâtira cette ville de Jéricho. Plus jamais personne ne devait la rebâtir, car Dieu avait dit, si quelqu'un le fait, il en posera les fondements au prix de son fils premier-né, et il relèvera les murs au prix d'un autre enfant. Voilà, donc une ville dont l'emplacement était bon, mais une ville maudite. Ça nous fait penser au monde tel qu'il existe aujourd'hui. Un monde que Dieu a créé dans sa bienveillance. L'Écriture rend témoignage de la création de Dieu comme une excellente chose. Et le récit de la création, qui tient en quelques lignes lui aussi, bien nous montre à quel point Dieu, quand il a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, a pu regarder sa création et faire ce constat que tout ce qu'il avait fait était bon. Et même lorsque Dieu a créé l'homme, ça a été le couronnement de sa création, en quelque sorte. Le sixième jour, il nous a dit, Dieu vit que cela était très bon. Mais, un petit peu comme la ville de Jéricho, bien suite à la désobéissance de l'homme, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements, c'est le livre qui donne des clés aussi aux problèmes que l'homme se pose depuis des siècles, bien, elle nous montre qu'à la suite du péché, la suite de la rébellion de la créature, de l'homme contre Dieu, bien le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et un apôtre écrit, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, c'est donc une image frappante du monde. L'emplacement est bon, mais voilà, les eaux sont mauvaises. Quelque chose de mauvais y est entré, et à partir du moment où le péché est entré dans le monde, où le cœur de l'homme s'est détaché de son Créateur, bien, voilà, hein, le monde d'aujourd'hui nous donne un commentaire vivant de cette parole terrible. La mort s'est étendue sur tous les hommes, toutes ces cruautés qui se commettent sur la terre, parfois sous un même toit, bien, tout ça, c'est la conséquence de l'éloignement. Le séjour était bon au départ, et quelque chose s'est produit, il y a eu un drame. Alors, ces habitants de Jéricho, on imagine qu'ils ne sont pas restés comme ça sans rien faire. On a certainement tenté de trouver des solutions à la situation. L'eau était mauvaise. J'imagine que les habitants de cette ville de Jéricho ont tenté de la filtrer, ont tenté de mettre en place des canaux pour irriguer avec d'autres sources. J'imagine qu'on a essayé, je ne sais pas moi, de mettre de l'engrais. On a trouvé toutes sortes de solutions. Mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, au moment où on va faire appel à Élisée, l'état de la ville de Jéricho et de ses campagnes était rigoureusement le même. Et là aussi, si nous réfléchissons, nous faisons un parallèle saisissant. L'homme, depuis des siècles, essaye toujours de trouver des solutions. Et on essaie de trouver des solutions, des solutions économiques. Et on déploie là, au plus haut niveau, des gens qui réfléchissent et qui trouvent et qui mettent en place des mesures, etc. Mais ça ne résout rien. On essaie de trouver des solutions sociales, on essaie de trouver toutes sortes de solutions, des solutions philosophiques parfois. Des gens ont consacré leur vie tout entière à réfléchir pour tenter de proposer aux gens des solutions à ce qui marque le monde, ce qui fait que la mort y règne. Et même des gens qui se sont arrêtés, qui ont pris le temps de réfléchir aux choses, qui ont véritablement eu, je dirais, le courage de regarder les problèmes de l'existence en face, qui ont parfois pensé à la question de la mort, qui ont pensé à la question du bien et du mal, bien se sont tournés vers même la religion, la morale. Aujourd'hui, on parle de réintroduire des leçons de morale à l'école, c'est sans doute qu'il y a une raison. On tente de juguler le mal, mais, voyez, même si aujourd'hui les écrivains, les penseurs vous disent que parce que nous sommes au 21e siècle, bien sûr, on est beaucoup plus évolué que les générations qui nous ont précédés, Le verdict de la Bible, même sur cette affirmation, est tout à fait frappant, ça nous fait réfléchir. Rien de nouveau sous le soleil. Toujours le même problème, finalement, qui est au fond. Et ce qui a fait en sorte que les habitants de Jéricho ont pu s'en sortir, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est la présence, au milieu d'eux, de cet homme dont nous avons parlé, le prophète Élisée. Ah, s'il n'avait pas été là, on aurait pu continuer à tourner en rond, on aurait pu continuer à s'imaginer qu'on allait trouver d'autres solutions qui peut-être fonctionneraient là où tout avait échoué, mais voyez-vous, il n'y avait pour eux aucun espoir. Ils étaient comme partis dans un cycle d'espérance et de désillusion. Et puis là, voilà qu'il y a Élisée. Ah, cet homme, on en entendait parler en Israël. Le témoignage de ses œuvres s'était répandu. On savait que lorsque cet homme parlait, agissait, il le faisait au nom de Dieu. Et voilà que Élisée se trouve là au milieu de la ville de Jéricho et qu'on va envoyer vers lui. Et ils vont parler. Ils vont lui dire, mais Élisée, le séjour de la ville est bon. Il y a quelque chose là qui devrait être formidable dans ma vie. Au départ, je sens bien que ça n'aurait pas dû être comme ça. Mais là où devrait régner la vie, il y a la mort. Ils lui font connaître le problème. Ils ont bien fait de faire connaître le problème à Élisée. Parce que c'est ça qui va leur ouvrir la porte de la solution. Et nous faisons bien, nous aussi, non pas de nous confier en un prophète, en tout cas pas dans le prophète Élisée, il n'est plus aujourd'hui des nôtres, mais la Bible rend témoignage au fait que Dieu a envoyé son Fils. L'Évangile, c'est cela, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, il l'a envoyé dans le monde. Son amour a été manifesté envers nous en ce que le Seigneur a paru, n'est-ce pas, pour nous secourir. Et s'il a donné sa vie sur la croix, il était venu pour cela, nous allons en reparler, il est glorieusement ressuscité, nous croyons, les chrétiens croient que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est glorieusement ressuscité des morts, et qu'il est toujours présent aujourd'hui, ressuscité, et que nous pouvons toujours le trouver, nous adresser à lui. Il nous a dit qu'il peut encore sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Il est le prophète par excellence. Il est le Fils de Dieu. Il est comme le prophète Élisée, celui par qui Dieu nous parle, après nous avoir autrefois, de diverses manières, à plusieurs reprises, parlé par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, dit l'Écriture, nous a parlé par son Fils. Et nous aussi, nous pouvons lui parler, lui faire connaître ce qui peut-être est dans notre vie semblable à Jéricho, ce qui est marqué par la mort. Peut-être, je ne sais pas moi, une situation familiale qui nous déprime, une situation là qui nous colle à la peau depuis des années, le sentiment d'un échec profond, le sentiment devant les questions que soulève la vie, que soulève la mort, que nous n'avons pas les réponses. Seigneur, le séjour, c'est bon, au départ, je sens bien que ma vie aurait dû être autre chose, mais voilà, les eaux sont mauvaises, il y a quelque chose là de cassé, quelque chose de brisé, quelque chose qui apporte la mort dans ma vie. Dites-le au Seigneur, apportez-le à Dieu. Voilà ce qu'on a fait, et à partir du moment où on a parlé à Élisée, c'est Élisée qui lui-même s'est mis à parler et à agir. Je vous assure que lorsque l'on s'approche de Dieu, il est capable, et il veut le faire, de nous parler à son tour. Dieu n'est pas un Dieu muet, comme les idoles dont nous avons parlé il y a quelque temps. Dieu est un Dieu qui est capable d'agir aussi dans notre vie. Il y a des exaucements remarquables à la prière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, que va faire le prophète Élisée ? Le prophète Élisée, eh bien, ça nous marque, il ne va pas perdre son temps, vous voyez, à tourner autour des rivières, à essayer de soigner un peu les feuilles, les plantes qui avaient du mal à pousser. Non, non. Il nous a dit que directement, il va s'en prendre à la source du problème et il va remonter jusqu'à la source. Jusqu'à la source. Et ça, c'est important, parce que c'était la seule démarche qui permettait à cette ville de Jéricho de trouver la délivrance, de sortir de son problème. Il fallait aller à la source. Je vous invite rapidement à lire deux textes qui nous éclairent un petit peu sur cet acte, cette démarche-là d'Élisée. Le premier texte, que je vous invite à découvrir se trouve dans le livre des Proverbes. Alors, si vous n'avez pas la Bible ou si vous la connaissez mal, vous pouvez simplement vous contenter d'écouter. Proverbes, chapitre 4, nous lisons au verset 23. Proverbes, chapitre 4 et au verset 23. Voilà ce que la Bible dit ici. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et voilà, vous voyez, ici on s'aperçoit que la source, c'est le cœur de l'homme. La source qui produit tout ce que l'on voit dans le monde, la source qui conditionne l'état du monde et qui, d'une certaine manière, notre vie finalement, c'est notre cœur, c'est-à-dire non pas le muscle qui bat, bien entendu, mais l'essence de ce que nous sommes, le siège de nos pensées, de notre volonté, ce qui nous anime, ce qui détermine nos décisions, nos choix, nos actes et nos pensées. Et puis un deuxième texte, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, Matthieu, chapitre 15, Matthieu, chapitre 15, et au verset 17. Matthieu, chapitre 15, verset 17. Voilà, c'est le Christ qui parle. Et il dit ceci: « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » Voilà, nous prenons le temps de lire ce passage parce qu'il rend témoignage au témoignage que le Christ rend au cœur de l'homme. Ce n'est pas des bonnes choses tout ce qui est énuméré ici. Bien, c'est la source. Finalement, ce que le Christ nous fait comprendre ici, c'est que la source véritable de nos maux, l'explication de nos détresses, l'explication des détresses qui marquent cette terre de misère, bien, ce n'est rien d'autre que ça. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est le fait que l'homme, privé de la communion avec Dieu, de manière grossière ou parfois beaucoup plus subtile, bien il est livré au mal. Il est livré au mal dans ses pensées, il est livré au mal dans ses réactions, il est livré au mal dans ses actes. Alors parfois il s'en défend. C'est bien qu'il y a toutes sortes de philosophes qui ont écrit « Non, le cœur de l'homme est bon, c'est des circonstances. » Mais voyez, la Bible qui a été inspirée par Dieu, et Dieu qui est notre Créateur, connaît bien notre besoin, connaît bien notre état, rend néanmoins ce verdict. Il dit « Mais c'est... voilà !» Et le courage de le reconnaître, c'est dans ta vie, par rapport à la mort, par rapport aux questions de la vie, ce qui te prive d'assurance, ce qui fait en sorte que ton âme est comme vide, ce qui fait en sorte qu'il y a en toi toutes sortes de dégoûts parfois. Mais c'est ça, c'est le fait que tu as été conduit à prendre des décisions, à effectuer des actions, bien que ta conscience même condamne. Et c'est la source du problème. Et il faut que ça soit résolu. Alors, Élisée était monté vers la source. Et heureusement, il n'a pas fait simplement ça les mains vides. Mais il a dit, donnez-moi deux choses. Donnez-moi du sel et donnez-moi un plat neuf. Alors, pour faire court, le sel dans la Bible, très souvent, c'est le symbole d'une alliance. On concluait une alliance et pour conclure une alliance, il fallait du sel. Or, Dieu, par l'Évangile, nous révèle que dans sa bonté, bien, il veut conclure une alliance avec nous. Oui, le Christ, le soir où il s'apprête à être livré, où il le sait, il est venu pour cela, il est venu pour donner sa vie, bien, célébrera, partagera un dernier repas avec ses disciples, les apôtres, et il leur donnera à partager du pain, du vin, et il dira, voyez ce vin. Bien, partagez-le entre vous, parce que dans quelques heures, c'est ce qu'il veut leur faire comprendre en tout cas, je livrerai ma vie sur la croix, on me livrera, et après un procès faux, bâclé, truqué, bien je serai attaché à la croix. Mes mains et mes pieds seront percés, mon corps sera frappé et le sang coulera. Bien, cette mort, je la livre pour vous. C'est pourquoi je suis venu, leur fait-elle comprendre. Parce que il fallait que Jésus porte sur lui. Il est venu, lui, le Fils de Dieu, pour représenter les hommes que nous sommes. Il s'est fait lui-même homme pour prendre notre place, pour être notre représentant, pour que nos fautes soient punies en lui. Il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et en partageant le vin, il dira, bien, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Dieu, en livrant Jésus comme une victime pour nos péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, veut traiter alliance avec nous. C'est-à-dire qu'il se propose de nous faire grâce, de pardonner nos fautes, de laver nos consciences, de nous permettre de retrouver cette communion perdue en nous donnant la paix du cœur. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour recevoir ça? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut souffrir quoi que ce soit? Non, c'est simplement en reconnaissant, voyez, ce besoin que nous avons tous de recevoir ce don et en le recevant de la main même de Dieu. Et pour terminer, bien, le sel est le plat neuf. Alors pourquoi un plat? J'en sais rien. Il faut demander à des exégètes plus capables que moi pour vous l'expliquer. Mais ce qui est certain, c'est que ce plat, il était neuf. Or, ce qui est neuf, voyez, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça n'a rien à voir avec l'ancien, puisque c'est neuf. Or, dans le salut que Dieu nous propose par l'Évangile, il y a deux choses essentielles. Premièrement, il y a le pardon de nos péchés. Il y a le fait que, alors que nous avons mauvaise conscience, que la mort nous fait peur parce que nous sentons confusément que nous allons trouver après la mort le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Christ dit, si quelqu'un croit en moi, il ne vient pas en jugement, il a la vie éternelle. Puis il y a aussi un changement qui s'opère dès notre vie. C'est pas seulement que Dieu nous pardonne, mais il nous change, il nous transforme. Et celui qui était esclave de ses passions, incapable de faire le bien, vous avez des gens qui prennent des bonnes résolutions, je le ferai plus, je le dirai plus, je vais arrêter de jouer, de dépenser mon argent au jeu, de mentir, mais ils retombent toujours dans leur travers. Ils disent, c'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai, ça, la Bible rend témoignage que l'homme, loin de Dieu, est vendu au mal. Bien, quand Dieu efface, quand nous nous plaçons par la foi au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, non seulement il nous fait grâce, il nous pardonne, mais encore il nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est le plat neuf. C'est une réalité. Ça peut devenir une réalité dans votre vie, cet après-midi, si vous en reconnaissez le besoin devant Dieu. Et si, dans la foi, vous approchez de lui pour recevoir ce don. Si votre vie ressemble un peu à Jéricho, voyez, l'emplacement est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Et vous avez besoin d'une intervention de Dieu, vous avez besoin d'une intervention du Christ dans votre vie. Et bien, si vous vous approchez de lui, comme ces hommes l'ont fait, ce que Dieu a fait pour ces hommes, il peut aussi, comme nous l'avons dit, le faire pour vous. Recueillons-nous quelques instants et ensemble, simplement, bien, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur.